Salut à tous, bienvenue pour le 23e épisode déjà de la saison 3 de Vue du Banc, un épisode qui va surtout parler de Ligue 1, qui fera aussi un petit tour en Espagne pour faire une petite présentation, une petite prise de température avant les matchs européens de Lyon et de Paris. Pour cet épisode, comme d'habitude, Florent Tonuti et Raphaël Cosmidis. Salut Florent.
Salut.
Et salut Raphaël.
Salut Christophe.
Alors j'anime parce qu'on va faire une bonne partie, je sais pas si quel temps exactement ça va prendre, mais en tout cas on va pas mal revenir sur le match de dimanche soir entre Marseille et Monaco. Florent, vous avez vu le match, pas moi. Florent, qu'est-ce que tu as à dire sur ce match nul de partout?
Bah, au final, un match nul assez logique, j'ai eu l'impression. J'ai pas non plus vu le match aussi attentivement que Raphaël, vu que j'étais dans des situations de bar. Mais c'était un match pas déplaisant. Après, c'est quand même un match où il s'est passé beaucoup de choses dans les 10 premières minutes des demi-temps, et j'ai l'impression qu'après ça a vite baissé, alors que ça aurait peut-être pu beaucoup plus s'enflammer. J'ai eu l'impression de voir deux blocs qui sont quand même pas mal neutralisés collectivement, et au final j'ai surtout retenu des performances individuelles. Luis Gustavo forcément, comme d'habitude côté Marseille. Fabinho, que j'ai trouvé pas mal au-delà de son but côté Lyon. Il y avait une vraie bataille entre ces deux-là de toute façon. Et voilà, mais c'est vrai que un match nul, à mon sens, assez logique à la fin, et au final qui met tout le monde, on va dire, quasiment sur un pied d'égalité, vu qu'ils ils rattrapent Lyon, et voilà, c'est bien pour la suite. Voilà.
Raphaël, en plus, ce match qui arrive juste après notre débat de la semaine dernière,
oui,
sur qui
vrai, ouais.
Pourrait terminer deuxième, est-ce que du coup, sur ce match-là, ça t'a donné un indice sur la meilleure des deux équipes, si on devait se projeter sur la fin de saison?
Alors déjà, la formule de Flo, situation de bar, pour dire qu'il était à son troisième Long Island, je trouve ça exceptionnel, et je vais la garder pour mes futurs moments un peu problématiques.
Mais sur l'équipe qui m'a fait la meilleure impression, ou que j'ai l'impression qu'elle est la meilleure, je pense pas que sur ce match il y ait vraiment un décalage. Alors collectivement, j'ai retenu quelques trucs quand même. Je trouve que l'OM, et on en avait un peu parlé avec Flo et avec toi Christophe, que l'OM est la meilleure équipe des trois sur attaque placée, et je pense que ça s'est vu avec Lyon contre Bordeaux, et ça Flo t'en reparlera, et que c'est un problème pour cette équipe, à l'inverse de l'OM qui a réussi à développer vraiment des principes dans cette partie-là du jeu, et notamment grâce à Luis Gustavo. Sur ce match-là, je trouve que dès que Gustavo était plus bas et qu'ils ont réussi en fait à créer un triangle avec Rolando et Rami, et à sortir du pressing de Monaco toujours en 4-4-2, ils ont réussi finalement à créer des supériorités numériques, et dès que Gustavo a pu se retourner, ça a abouti déjà au premier but pour l'OM, et puis il y a une grosse occasion de Payet là, qui met au-dessus du but sur un centre de Thauvin. D'ailleurs, on a vu que la structure de Marseille avec le ballon, c'était plus souvent proche du milieu à 3 avec une pointe basse que du milieu à 3 avec une pointe haute, parce que finalement Sanson allait beaucoup plus haut et se plaçait entre les lignes, alors que Gustavo restait proche de ses centraux. Et je pense que dans ce domaine-là, sur attaque placée, l'OM est la meilleure équipe, et que comme d'habitude, Monaco a du mal sur cette partie-là du jeu. De toute façon, c'est le cas avec Jardim depuis qu'il est là. C'est jamais une équipe qui a été très brillante quand il faut défaire des blocs bien organisés, bien verrouillés. À l'inverse de ce qu'il a réussi à faire Garcia à l'OM, et ce qu'il a réussi à faire auparavant, que ce soit à Lille ou au Mans ou encore à la Roma pendant un certain temps. Ça, je l'ai retenu. J'ai retenu aussi le fait que Monaco avait un pressing très, très individuel sur les côtés. C'est-à-dire que c'est les latéraux qui suivaient très haut les ailiers, que ce soit Thauvin ou Ocampos sur le côté gauche. Et que dès que Germain attaquait les espaces dans le dos, dès que tu vas faire défendre Jemerson et Glicolar, t'arrives à avoir des situations. Et là-dessus, Germain a été très bon. Ça manque encore un peu de présence dans la surface dès qu'il dézone pour les Marseillais, mais collectivement, c'est les trucs que j'ai retenus principalement. Alors après, il y a des performances individuelles, comme disait Flo, mais je les ai trouvées en fait dans le contexte d'une progression collective, comme Rami, par exemple, qui devient un meilleur relanceur qu'il ne l'était auparavant. Alors c'est toujours pas John Stones, mais c'est quand même quelqu'un qui prend plus de risques que par le passé, qui arrive maintenant à casser la ligne par la conduite ou par la passe. C'est pas exceptionnel, mais s'il le fait de temps en temps, et ça aide beaucoup l'OM. Et puis après, si on doit parler des performances un peu plus négatives, parce que Flo a parlé du positif, il y a le couloir
couloir Ocampos Ghezal, qui a été le théâtre de tous les mauvais choix possibles et qui résume un peu cette opposition, comme on discutait avec Flo juste avant l'émission, où c'était un peu le résumé du match avec des équipes qui se ressemblaient en termes de profil de joueurs. Et ce couloir droit pour Monaco et gauche pour l'OM, ça a été assez catastrophique parce que ces gars-là ont une vision du jeu très restreinte.
Florent,
je
vais te relancer sur autre chose, mais quand j'entends Raphaël parler d'Adil Rami qui se projette, qui peut casser des lignes, etc., et que je repense à tout ce que tu disais sur l'équipe de France de Didier Deschamps, qu'est-ce que ça t'inspire de voir que même Rami est capable, je dis même Rami parce qu'a priori il est moins capable de faire ça intrinsèquement qu'Umtiti ou Varane, de faire ça et de voir qu'on l'utilise pas du tout comme ça en équipe de France. Est-ce que Rami a toujours su le faire ou alors est-ce que c'est un truc qu'on découvre parce qu'on lui donne justement maintenant sa responsabilité là?
Il me semble qu'il était déjà capable de le faire un petit peu quand il était à Lille.
Ouais.
Je sais pas si c'était avec Garcia ou avec Puel.
Si, bah c'est avec Garcia qui sont champions de France en 2011, l'équipe de Kaba, Hazard, Rami. Voilà.
Mais il me semble que déjà à l'époque il le montrait. Alors c'était pas forcément quelque chose d'automatique non plus, mais il avait déjà montré avec ce coach-là, donc il recommence à le faire aujourd'hui. De toute façon, c'est pas forcément Rolando qui prendra l'initiative à côté, donc faut bien que ça vienne d'un des deux. Et c'est vrai que son but récompense assez bien cette nouvelle approche. Après, pour aller au-delà du match, moi il y a aussi quelque chose que j'ai retenu, c'est dans la compo marseillaise. Parce qu'on est d'accord qu'Anguissa était bien là, il entre en jeu en deuxième mi-temps.
Ouais, il entre en jeu, il fait du bien d'ailleurs.
Et ce choix, il y avait quand même un choix assez marquant, j'ai trouvé, de Garcia au coup d'envoi, c'est d'aligner Sanson côté de Luis Gustavo. Quand tu connais les difficultés, entre guillemets, que les Marseillais ont eues dans les gros matchs sur les deux dernières saisons, même s'il y a eu des progrès malgré le match nul contre Paris et la défaite à Lyon, on avait quand même une équipe en gros progrès.
La défaite à Lyon, elle est vraiment en plein emploi quand même.
En effet, ouais, avec ce coup franc à la première minute et la grosse erreur de Mandanda qui met Lyon sur les bons rails. Mais,
comme Fekir contre Areola d'ailleurs, c'est un peu les mêmes scénarios.
Mais c'est quand même un changement, j'ai l'impression, dans l'approche du match. Le fait de faire ce choix-là, qui est quand même assez fort, d'aligner Sanson plutôt qu'Anguissa, qui avait été un petit peu le symbole d'une équipe de Marseille qui revenait à des bases plus défensives pour se reconstruire après la défaite assez scandaleuse contre Rennes en début de saison. Et donc le fait qu'il fasse ce choix-là, c'était quand même assez fort à mon sens, et un vrai message envoyé à l'adversaire et peut-être aussi plus largement aux autres adversaires en Ligue 1, au final il n'y a plus que l'Olympique Lyonnais aussi à côté, c'est de dire on a trouvé notre équipe, on a la capacité, avec, on en parlait la semaine dernière, avec Sanson, avec Thauvin, avec Payet, même si là c'était pas du tout la bonne version de Payet qu'il y a eu hier soir, avec Germain qui au final aujourd'hui, après son but, est en train de retrouver à peu près une moyenne qui équivaut à celle qu'il tenait sur les années passées. Donc ils l'ont retrouvé après 3-4 mois très compliqués. Donc ça aussi, c'est très intéressant dans le final. Donc c'est au-delà du résultat qui n'est pas forcément idéal pour l'OM, puisque ça reste un match nul à domicile. Ils ont quand même fait le boulot, j'ai l'impression, pour faire passer un message et dire que là, ils sont... C'est eux qui sont deuxièmes ? Non, c'est Lyon qui est deuxième. Ouais. Mais ils vont vraiment être de sérieux concurrents pour cette deuxième place. Et mentalement et dans l'approche du match, ils ont montré aussi une certaine envie d'être conquérants, à mon sens, par séance de départ. Alors que quand on avait souvent parlé de Garcia sur les ratés des saisons passées, justement face au gros, où on disait qu'il arrivait toujours à être très fort face au petit, qu'il avait du mal à être au niveau lorsque l'adversité s'élevait, là je trouve que sur les trois rendez-vous de cette saison, c'est vrai que face au gros, on n'a pas forcément le même coach ni la même approche en fait. Voilà.
Ouais, après c'est surtout le 0-0 au Parc là où il avait été très je crois que c'est juste après son arrivée.
Ouais, mais là c'est quand il arrive, donc
voilà. Il construit une équipe hyper défensive, mais Christophe, qui a bien connu la période lilloise de Garcia, c'était un coach qui avait souvent l'intention de prendre le jeu à son compte, et d'ailleurs, quels que soient les effectifs qu'il a eu, au Paris, au Mans, c'était une équipe qui jouait pas mal. Alors à Rome, quand il est arrivé, il a mis en place un 4-3-3 assez ambitieux. Alors il y a peut-être cette fin cette fin un peu ratée à Rome qui a laissé un arrière-goût bizarre, mais c'est quand même un coach qui a prouvé par, sur le, toute sa carrière qu'il est capable de construire de belles choses où qu'il passe.
En effet. C'était la fin de ta phrase.
Merci, oui, oui, j'attendais, j'attendais une réaction plus développée.
Non, non, ça, tu m'as pris de court.
Non, mais c'est si parce que je trouve que c'est un entraîneur qu'on a un peu vite enterré, peut-être.
Bah, je pense qu'il ne s'est pas fait du bien en, bon, en ratant, entre guillemets, ses débuts, en tout cas en n'étant pas, enfin, comme à Rome, où il gagne, je ne sais plus, je crois, les 8 premiers matchs de la saison, quelque chose comme ça. Alors qu'il arrivait dans une équipe en plein délabrement qui était un petit peu au fond du gouffre. Une fois que tu fais ça, après, ça te donne quand même un crédit, je ne vais pas dire illimité, mais tu peux vivre quasiment, quasiment un an là-dessus si tu ne t'écroules pas, si tu t'écroules pas derrière. Et puis même au niveau de sa com, je trouve que sa communication était bien moins pertinente à Marseille qu'elle l'était à Lille ou même à Rome, même si à Rome, sur la fin,
Il s'est un peu brûlé quand même.
Il s'est un peu brûlé parce qu'il s'est un peu trop enflammé. Il a un peu trop annoncé qu'il allait, genre par exemple, qu'il allait être champion devant la Juve après une défaite dans ce match-là. Là, c'est, j'ai l'impression que c'était un peu le moment où il a commencé à se perdre un petit peu. Mais justement, j'en discutais avec des journalistes qui couvraient le LOSC à l'époque de Garcia, là, il y a quelques jours. Et lui, c'était vraiment le maître pour peu importe ta question, il faisait semblant d'y répondre. Et au final, il arrivait exactement à faire passer le message qu'il souhaitait. C'est-à-dire que s'il avait décidé de. Je sais pas, mais genre de critiquer l'arbitre, tu pouvais lui poser une question sur son milieu défensif. L'air de rien, il arrivait à te mettre un petit taquet sur l'arbitre. Et s'il voulait brosser dans le sens du poil un adversaire, il pouvait le faire pareil. Et il était vraiment habile là-dessus et il s'était un petit peu perdu. On a parlé notamment de, enfin, du côté, si on n'avait pas pris X but dans tel match, on serait meilleure défense, etc. Qui forcément, même si la communication, c'est qu'une petite partie du foot... Hein, dans l'absolu, tu n'as même pas besoin de parler pour être un bon coach. Mais forcément, quand ça tarde un petit peu à venir sur le terrain, on étudie un petit peu le reste, un peu tout ce qui est extra-foot. Et si tu combines des performances qui étaient moyennes dans un projet qui se voulait grandiloquent, avec en plus une communication qui était un petit peu hasardeuse, forcément, ça a pu alimenter les doutes des supporters. Mais si tu enlèves cette partie-là et que tu vois juste ce qui est fait cette saison et la progression, bah, on retrouve, pour moi, le Garcia, vrai, bon, voire très bon coach, en tout cas au niveau on va dire, deuxième tiers européen, deuxième sphère, c'est-à-dire pas les très grands coachs, mais ceux qui peuvent entraîner des équipes qui jouent les qualifications européennes dans les cinq plus grands championnats.
Bah après, il y a peu de coachs qui se sont exportés aussi bien que Garcia lors de sa première saison à Rome. Ensuite, c'est un peu parti en vrille. Mais j'ai pas souvenir d'un coach français qui récemment prend une équipe top 3, top 4 dans un pays étranger et fait une belle saison, tu vois. Donc je pense qu'on l'a un peu vite en même temps, oublié et que derrière il y a pas beaucoup
d'exemples aussi. Mais
ouais, voilà, mais tu vois, c'est pour te montrer.
Après, c'est le fait qu'il y ait pas beaucoup d'exemples est aussi parlant, justement.
Oui, voilà, c'est ça.
Pas beaucoup de coachs séduits à l'étranger, quoi. Et je reste sur ma philosophie et mon idée qui est que tu séduis à l'étranger parce que t'as une philosophie et pas forcément parce que t'as des résultats. Ouais, et ce qui est pour ça que c'est Puel qui a pu partir après Nice, que Denouex a pu partir à la Real et que Garcia a pu partir à Rome. Ouais, et que les gens veulent autre chose que simplement bah, j'ai réussi à maximiser le potentiel de l'effectif sur une ou deux saisons.
Et que des mecs comme David Moyes ou Philippe Montagnier ont plus de mal sur le long terme à convaincre ailleurs parce qu'on a encore du mal à identifier les contours de leur philosophie.
C'est vrai que Montagnier faisait des belles choses et faisait plutôt bien jouer ses équipes. Mais à la réflexion, avec le recul, on se dit bah, peut-être que finalement, c'était la façon la plus pragmatique de gérer ces équipes-là, c'était justement de les faire jouer. Et que finalement, ce n'est pas lui qui a fait jouer des, entre guillemets, des pieds carrés. C'était simplement des gars doués. Et c'était logique que tu joues au sol, par exemple, avec ces mecs-là. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres coachs qui font jouer toutes leurs équipes, peu importe l'effectif.
À l'époque où Valenciennes était surnommé le Barça du Nord.
Voilà, c'est ça. On reviendra pas sur cette période. Fin de la digression, Raphaël, Rachid Ghezal, Keita Baldé.
Keita Baldé, j'ai plutôt bien aimé, je trouve qu'il se déplace très bien. Après, je pense que dans les 1 contre 1 face à Bounassar, il a eu du mal en termes de vitesse pure. Peut-être qu'il aurait besoin d'un peu plus de feinte et de jeu de corps pour briller face à lui. Mais le monégasque que j'ai retenu, au-delà de Fabinho, dont Florent a déjà parlé, c'est Tielemans. Pas pour sa première période, où je l'ai trouvé en demi-teinte, mais sa deuxième, où il a été très fort à la récupération. Pas parce qu'il a récupéré beaucoup de ballons, mais quand il l'a récupéré, il a su faire de très bonnes choses avec immédiatement. Il a très bien orienté le jeu. Alors, dans un match comme ça, où il y a eu beaucoup d'espace en deuxième période, je trouve qu'il lui manque un peu une capacité à avancer balle au pied, à changer de rythme. Il est un peu monorythme. C'est quelqu'un que je voyais. Enfin, je sais pas. C'est l'image qu'on avait de lui quand il était en Belgique, où tu voyais les temps forts et tu disais, ouais, c'est un joueur qui va casser des lignes, qui va marquer beaucoup de buts. Et parce que c'était le cas en Belgique. Et là, je trouve que quand il porte le ballon et qu'il y a un espace libre devant lui, il a du mal à aller l'attaquer pour aller fixer. Je crois qu'il y a une action en fin de match où, comme ça, il arrive devant un Marseillais, il peut libérer un joueur et en vitesse d'exécution, il est trop lent pour y arriver et il perd un ballon qui était dangereux pour Monaco. Voilà. Mais sinon, en termes d'orientation du jeu, de qualité de passe, de vision du jeu, c'était une très belle deuxième période et je pense qu'à terme, ce sera un excellent milieu de terrain pour Monaco. Alors après, avec Fabinho, c'est toujours plus simple parce que le gars t'abat un boulot considérable à côté. Mais sur le plus long terme, si Monaco trouve un associé à Tielemans, parce que je pense que Fabinho va pas non plus faire de vieux os dans la principauté, ça peut être un super milieu qui partira comme prévu dans 2-3 ans dans un top club parce qu'il a une qualité de pied exceptionnelle.
Florent, je parlais de Keïta Baldé et de Ghezal Raphaël parce que ça change un petit peu de ce qu'il y avait l'an dernier sur les côtés à Monaco. Bon, là, Lemar est encore là, c'est juste qu'il est blessé. Mais tu passes de Lemar Silva, qui sont des meneurs de jeu excentrés plus que des ailiers, à des purs ailiers de percussion qui soit débordent, soit repiquent sur leurs pieds forts. Forcément, ça change aussi un petit peu le profil d'une équipe.
Bah ça rend forcément Monaco beaucoup plus prévisible, en fait. On en avait parlé quand on avait fait notre spécial justement sur Monaco après l'officialisation de leur titre. Et la difficulté pour eux cette saison, c'est que, bon, en effet, Lemar est blessé, donc il va revenir normalement. Mais c'est vrai qu'ils ont, perdu en variété. Et quand tu joues en 4-4-2, ce qui est très important, c'est pour résumer la chose, c'est un petit peu d'avoir quatre profils offensifs qui savent un peu tout faire. Et là, la difficulté, c'est que quand tu perds ça, l'an dernier, ils avaient quatre mecs, entre Germain qui décrochait, Falcao qui est resté en pointe, Mbappé qui apportait encore autre chose quand il jouait devant. Et puis sur les côtés, Lemar qui peut rentrer, être un troisième relayeur, qui peut jouer, qui peut envoyer des centres avec son pied gauche, avec son pied gauche, depuis une position excentrée, les latéraux qui sont toujours là prêts à dédoubler, Bernardo Silva qui sait un peu tout faire depuis son couloir aussi. Tout ça faisait que ça rendait l'équipe très difficile à aborder sur le plan défensif parce que ben, tu savais absolument pas vers quelles options ils allaient se tourner pour le match, quoi. Et en plus, ils avaient 4 mecs capables d'apporter des réponses en fonction de ce que proposait l'adversaire défensivement.
Et si tu dois comparer ce Monaco là, de cette saison stylistiquement à un autre Monaco, ce serait celui d'il y a 2-3 ans quand c'était Martial et Carrasco sur les côtés. Ouais. Sauf que c'était une toute autre qualité que Keïta Baldé, enfin Keïta Baldé d'aujourd'hui et Ghezal. Il y a une chute de qualité, même en termes d'élimination. Je trouve que Ghezal, c'est un joueur qui est capable de se mettre sur son pied gauche et d'enchaîner. Et là, d'ailleurs, il claque une belle frappe que Mandanda sort main opposée. Ouais. Mais en termes de pur dribble 1 contre 1 ou d'avaler des espaces en contre-attaque, ça n'a rien à voir avec un mec comme Carrasco qui, d'ailleurs, dès qu'il joue avec l'Atletico, fait un bien fou à cette équipe. Tu vois, je trouve que limite la régression par rapport à Lemar et Bernardo m'embête moins parce que c'est plus du tout le même profil de joueur, mais par rapport à ce qu'ils avaient il y a 2-3 ans, c'est tout le recrutement qui a été raté, c'est les Cavaleiro, les trucs comme ça qui n'ont pas fonctionné. Ronny Lopez qui est un joueur correct mais qui n'est pas le joueur qu'on imaginait il y a 3 ans, il y a tous ces petits échecs qui font que Monaco n'est pas au niveau attendu.
Oui, ils savent tout simplement faire beaucoup de moins de choses cette saison.
Ouais,
quoi.
Ça. Et moins bien.
Et aujourd'hui, ils survivent à la quatrième place parce qu'ils ont des attaquants qui convertissent.
Ouais,
pour le coup, Keïta Baldé aussi est très particulièrement efficace aussi devant
sur
le but.
Sur un volume faible, ouais.
Sur un volume plus faible, en effet. C'est son problème, de toute façon, Baldé. Le jour où il va réussir à augmenter son volume en Ligue 1, ça risque de devenir le joueur que c'était à la Lazio quand il a terminé la saison, où il est absolument monstrueux. Mais voilà, leur difficulté aujourd'hui, c'est que par rapport à Lyon, en gros, pour résumer, par rapport aux deux autres adversaires, par rapport à Lyon, ils ont un déficit de talent, comme tu viens de le dire, de talent pur. Et par rapport à l'OM, ils ont un déficit en termes de qualité collective et d'expression collective, parce que, en effet, quand tu prends aujourd'hui l'OM, bah, à part Ocampos, qui est dans un registre
Malagasque, il vient de là-bas.
Ouais, et très, on va dire, unidimensionnel, comme on dirait en basket. Thauvin, depuis son aile droite, il sait tout faire. Payet, il peut un peu tout faire aussi. Sanson, pour moi, c'est le joueur qui peut changer leur deuxième moitié de saison sur le plan offensif et leur apporter encore plus. Depuis ça,
ils ont un gars comme Lopez qui peut sortir du banc.
Et en plus, Lopez peut sortir du banc, oui, et peut-être retrouver son niveau. Donc voilà, ils ont aujourd'hui, de toute façon, on en avait parlé la semaine dernière. On est juste dans la continuité. C'est l'OM qui a le meilleur alliage entre qualité collective et peut-être talent pur, même s'ils ont sans doute un ou deux talents en moins que l'Olympique Lyonnais, quoi.
Ouais. Après, tu vois, sur le Keita Baldé et sa grosse saison à la Lazio, il était à 16 buts et 3 passes D, donc c'est la saison dernière. Mais sauf qu'il avait complètement surperformé, il avait quasiment doublé son total de buts par rapport aux expected goals, il était à 8,74. Donc c'est dans le recrutement, parfois les outils stats sont utilisés, tu pouvais prévoir un peu ce moindre nombre de buts,
ouais,
par rapport.
Là pour le coup, il est pas à deux buts.
Marqué, mais 6 buts marqués et 4 expected goals.
Ouais, il a plus de 1,5, donc ça reste une belle surperformance quand même.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'était pas non plus un volume exceptionnel déjà à la Lazio, tu vois. Pourtant il était à plus de 3 tirs par match, alors que là il est juste à 2,20 à Monaco. Ouais.
Si on prend les deux équipes, là on est en période de mercato, alors c'est vraiment pas dit que les deux recrutent, mais même si on se projette sur la saison prochaine, quel profil vous cibleriez, tiens Raphaël par exemple, sur soit Monaco, soit Marseille, soit les deux, pour passer un cap? Est-ce qu'il y a vraiment un point faible où tu dis j'ai n'importe quoi, mais hop, si par exemple à Monaco, si on a vraiment deux bons latéraux, on va vraiment passer un cap? Ou alors est-ce que tous les joueurs sont à peu près à un niveau moyen, et moyen plus, mais disons que ça ne serait pas en changeant une seule pièce que tu pourrais augmenter le niveau, parce que tu es déjà plus ou moins au maximum de ce que tu peux faire.
Vas-y, je vais faire Marseille, comme ça Flo aura le temps de réfléchir pour Monaco, parce que Monaco c'est compliqué. Non, mais pour Marseille, y a aussi, c'est lié au système que tu veux mettre en place et à ton animation. C'est est-ce que tu veux associer Germain à quelqu'un d'autre? Parce que je pense que Germain est un très bon attaquant, mais que tout seul, sur le long terme, il ne permettra pas à l'OM de réaliser ce qu'ils veulent. Et tu as aussi la question de Payet, de Thauvin, parce que c'est aussi des joueurs. Alors Payet, pour sa méforme, mais son déclin assez prévisible athlétiquement. Et Thauvin pour son possible départ, parce qu'après une telle saison, enfin, alors il est très attaché à l'OM, mais si des gros clubs viennent le chercher, ça peut partir aussi. Et là, à partir de là, tu vas devoir trouver des créateurs, parce que c'est vraiment des créateurs d'occasions exceptionnelles. Enfin, Payet sur coup de pied arrêté, c'est quelqu'un qui sur coup de pied arrêté d'ailleurs se fait des chiffres énormes de créativité, ce qui lui permet de titiller les mecs comme Neymar et tout ça sur les chiffres bruts. Quant à Thauvin et lui, c'est exceptionnel dans ce domaine-là, et tu vas devoir trouver des joueurs moins chers. Est aussi fort dans ce domaine-là, et là ça va être très compliqué pour l'OM de remplacer ça.
Florent, tu étais en pleine réflexion, est-ce que t'as trouvé un point faible monégasque, ou alors pas forcément, tout le monde est à peu près au niveau.
Le problème, ouais, c'est que c'est assez on va dire uniforme. Le problème de Monaco qui peut peut-être se présenter, peut-être pas l'été prochain, c'est peut-être un peu tôt, mais tu vois, Raphaël parlait de la succession de Payet, la succession de Falcao à Monaco, il va falloir à un moment donné peut-être qu'ils y pensent. Alors, il est encore au niveau, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est pas quelqu'un qui a encore beaucoup d'années à leur donner. Donc, après, ils viennent de recruter Pellegrini, là, c'est peut-être lui qui va être amené à prendre la suite.
Ça reste un pari monstrueux sur un joueur de 16 ans. Entre les deux, ouais.
Voilà, il y a un énorme fossé. Mais après, tu vois, on en aurait parlé il y a quelques semaines. Moi, j'avais jamais été convaincu par Georges au poste de latéral gauche, défensivement. Très problématique.
Non, oui, défensivement.
Oui, défensivement. Mais offensivement, ça reste un bon joueur. Mais après, moi, à Monaco, j'ai toujours apprécié Almami Touré sur les quelques matchs qu'il a fait. Alors, je m'attendais à ce qu'il sorte beaucoup plus vite, à ce qu'il soit lancé peut-être définitivement cette saison. Et puis, finalement, il fait que des bouts de matchs par-ci par-là, enfin, ou des matchs par-ci par-là. Donc ça reste un projet en cours, on va dire.
Je pense que pour Monaco, c'est aussi le partenaire de Falcao devant, si tu restes dans un 4-4-2 qui reste problématique. Parce que là, c'était Moutinho contre Marseille parce que dans le pressing, il est intelligent et il arrive à orienter le pressing. Mais les meilleures équipes de Monaco, ça a souvent été au moins deux mecs qui vont planter beaucoup de buts, quoi. C'était Falcao, c'était Martial et... Je me rappelle plus qui était là cette saison-là, mais c'était peut-être déjà Falcao, peut-être. Là, c'est Falcao et Mbappé l'an dernier, tu vois. Il y avait toujours une association ou Falcao-Germain qu'il n'y a plus du tout maintenant. Il y a 16 buts Falcao, le deuxième c'est Keita à 6,
Et ensuite, c'est du Fabinho. Donc, il y a.
Il y a ouais, pas y a, du tout ce partenaire. Au final, il y a un échec à Monaco cette saison qui aurait pu peut-être compenser la perte de talent en faisant jouer les autres. C'est Jovetic.
C'est Jovetic. Ouais,
qui est leur gros échec parce que, avec un Jovetic en état de marche, en soutien de Falcao, c'est un joueur très intelligent et qui aurait pu faire jouer les flèches et les lancer, les balder à gauche ou même à droite, vu qu'il peut jouer un peu partout de toute façon. Mais faire jouer les autres, en fait, il aurait été d'un bel apport s'il avait été à son niveau. Et c'est vrai que pour l'instant, on l'a vu, mais de manière très, très sporadique. Après, quoi.
Jovetic, sa dernière saison où il dépasse les 2000 minutes, c'est 2012-2013.
Ouais, c'est vrai. C'était prévisible, quoi.
Ouais, voilà, c'est sur le talent, il y a aucun doute. Et d'ailleurs, on en avait parlé un peu quand il était ressuscité à Séville, Christophe. Là, il avait claqué une arrivée incroyable et depuis, ça s'est tassé.
Ouais, c'est fou quand même parce que déjà sur sa fin de saison sévillane, c'était très compliqué, mais sur les 2-3 premiers mois, alors qu'il avait, il jouait quasiment plus du tout au foot depuis pas mal de temps, c'était devenu quasiment le meilleur joueur de Liga. Il était totalement à un niveau totalement invraisemblable, notamment le match où je crois qu'il doit mettre un doublé contre le Real, ou en tout cas il met un but contre le Real en toute fin de partie. Et c'était totalement fou. Et quand tu arrives à atteindre un tel niveau, alors que tu n'es pas un pur numéro 9, tu es plus un 9,5 et qu'il avait tendance à être souvent seul en pointe, et que pendant quand même. C'était quoi? C'était 8-10 matchs très rapprochés. Tu arrives à être à un tel niveau. On se dit, c'est pas par hasard. Quoi. C'est pas comme un buteur qui surperformerait pendant 2-3 matchs. Là, on se dit, il y avait quand même vraiment quelque chose. Et puis, il est retombé dans une espèce de néant où tu sens qu'il y a quand même un petit truc, mais il le montre absolument pas sur le terrain. Et c'est un peu dommage. Là, je viens de voir sur une info l'équipe que Fernando Torres avait été proposé à Rennes. Et que Rennes a décliné parce qu'il était trop cher. Donc peut-être que quelqu'un en Ligue 1 prendra Torres en prêt pour 6 mois. Ou
Bordeaux cherche un avant-centre.
Bah pourquoi pas. Hein,
ouais, bah, ouais.
Après tout,
après, c'est plus
scandaleux.
Dans les joueurs proposés en Ligue 1, du même genre, ancienne gloire, il y a Graziano Pelé aussi qui a été proposé à plusieurs clubs de Ligue 1.
Mais alors ça, je serais curieux de voir ça. Parce que c'est...
Ouais, mais
très
après,
bien marché sur 6 mois, lui.
J'ai cru voir que West Ham était chaud pour le prendre après. Ah, oui. Parce que, a priori, ils veulent un pivot. Parce que j'ai vu qu'ils étaient sur Giroud aussi. Ils ont laissé partir Diafra Sakho, qui a donc signé à Rennes, d'ailleurs, justement. Ouais. Et donc,
Rennes qui a laissé
Pelé,
partir Pelé.
On est peut-être assez proche d'un retour en Europe de Pelé.
Pourquoi Conte le prend pas, lui qui cherche un attaquant pivot? C'est parfait pour lui. Ils sont sur Giroud, apparemment. Enfin, bref, c'est marrant cette mode de l'attaquant pivot chez 2-3 clubs.
On verra. De toute façon, il reste 2 jours, donc ça va être vite réglé.
Il y a encore des choses à dire sur ce Marseille-Monaco?
Non, bah vivement Monaco-Lyon, parce que ça va être. Ça va faire une transition parfaite pour Bordeaux, je pense, mais ça va être un match curieux, parce que c'est des équipes qui ont des réactions assez aléatoires dans les gros matchs. Et Marseille est peut-être la plus régulière dans ce domaine-là, malgré des scores qui ne le reflètent pas toujours. Si on accepte le début de saison complètement foireux de l'OM, c'est les plus réguliers, je trouve. Lyon est capable du meilleur comme du pire, comme on l'a vu. Alors ça dépend si tu considères Bordeaux comme un gros match. Mais en l'occurrence, ils se sont bien plantés, je pense, Flo.
Et ben justement, oui. Florent était au stade pour ce magnifique Bordeaux-Lyon. Et il était avec Charlie, notamment, qu'on salue. Alors ce match... Est-ce que c'est l'effet Poyet ou alors est-ce que c'est simplement qu'à partir du moment où les joueurs se bougent le cul, si on peut dire ça comme ça, forcément dès que tu mets de l'intensité dans tout ce que tu fais, t'as au moins plus de chances de gagner?
Alors d'abord il y a le contexte, c'est-à-dire que en effet il y a l'arrivée de Poyet qui a sans doute travaillé les têtes de certains quand même pour remettre certains joueurs d'aplomb, ça c'est très possible. Ou pour en réveiller d'autres, quand on voit la performance de Meïté, par exemple, au milieu de terrain. On détaillera après. Après, c'est vrai que dans l'approche du match, au final, quand tu vois ce qu'avaient fait les prestats de Bordeaux face à plus gros cette saison, l'an dernier, bon, ils avaient perdu à chaque fois. Enfin, ils avaient été, on va dire, inférieurs assez souvent. Là cette année au final c'est un match qui pouvait rappeler celui face à Marseille, mais avec un bloc qui a quand même joué une bonne quinzaine de mètres plus haut. Mais je dis que ça rappelle Marseille parce qu'au final, c'est un match où Bordeaux est passé devant assez vite et n'a pas eu à faire le jeu. Ils ont laissé Lyon le ballon à l'OL et ils se sont chargés d'attendre, on va dire, tout en mettant quand même pas mal d'agressivité, d'engagement, d'intensité à la récupération et dans les duels pour les empêcher de jouer, tout simplement. Mais voilà, c'est vrai que dans l'approche, au final, c'est vrai que ça faisait peur de voir Lyon, sur la dynamique actuelle, débarquer à Bordeaux. Mais en face, on a une équipe qui a répondu en étant en opposant deux lignes très resserrées. C'est un 4-5-1 en orientant la relance vers les côtés et l'objectif étant d'enfermer ensuite l'OL sur les côtés pour trapper tout ça, les empêcher de revenir à l'intérieur. Et ça a plutôt bien fonctionné parce que au final, ben, t'as des joueurs qui ont répondu défensivement, qui ont perdu très peu de duels. Je crois qu'à la fin du match, il m'a semblé voir passer les stats hier. Bordeaux termine avec 75% de tacles réussis dans le match, ce qui reste un excellent chiffre. C'est 21 tacles réussis sur 28. Et le seul tacle manqué qui est pas loin du but, c'est le tacle d'Otavio, en fait. Enfin, le tacle de Pablo, juste avant le deuxième carton jaune d'Otavio, en fait, puisque Pablo se fait effacer par Fekir et Otavio fait faute pour empêcher Fekir d'entrer dans la surface. Donc, bon, au final, il y a eu sanction directe, mais voilà, je pense que c'était aussi un match idéal au final parce que Bordeaux n'a pas eu à faire le jeu. Parce que le vrai problème des Girondins depuis 4-5 mois, c'est qu'ils sont incapables de faire le jeu, justement.
Et, c'est un peu le problème de Lyon aussi, donc ça tombe
oui,
bien.
Oui, mais là, sur ce match-là, voilà, ils ont... On va dire qu'ils ont réveillé les Uruguayens qui sommeillaient en eux, hein, pour la Gara de Charrois, etc., puisque Poyet en parlait en conférence de presse. Et ça leur a permis de faire ce très bon résultat. Après, voilà, ça a aussi permis de voir peut-être le potentiel de cette équipe dans ce domaine-là.
Et de cette nouvelle charnière.
Oui, je vais y venir après. Mais quand tu vois le contre qui claque à la 15e minute, ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas vu une action comme ça. Et elle est parfaitement menée avec une grosse accélération de Malcolm au départ. Qui en a lâché 2-3 autres d'ailleurs sur la première mi-temps. Il était assez impressionnant, je l'avais sous les yeux, c'était de mon côté, ça allait très très vite.
Calme-toi.
Et 60 millions. Et, et non, mais voilà, un match assez collectivement très cohérent et complet quoi, de la part des Girondins, parce qu'au final, même si là on va parler aussi des faiblesses lyonnaises, bah, collectivement Bordeaux était en place et leur a opposé quand même une belle opposition ouais, pour le coup.
Il faut dire un mot aussi de Meïté qui est très impliqué sur ce premier but qui prouve, lui, par plus qui est touché de balle et qualité technique sur ce match-là, qu'il n'y a pas simplement, bon, tu as cité Malcolm aussi, mais qu'il n'y a pas simplement que de l'envie. Il y a aussi eu le fait de jouer juste et de ne pas faire n'importe quoi.
Ouais, Meïté, jusqu'ici, en fait... Sur les 2-3 premiers matchs qu'il a joué, je ne sais plus à combien il en est, il avait démarré à Granville. Je ne savais toujours pas quel était le joueur qu'on avait recruté, quel était le profil. Est-ce que c'était le 6 qu'on nous vendait en Belgique ou est-ce que c'était le 8 qu'il y avait à Lille, tu sais. Et là, on a vu. En fait, on a surtout vu un deuxième joueur capable de prendre la pression dans l'équipe, puisque l'autre étant évidemment Malcolm. Meïté est un joueur qui a montré plusieurs fois sous pression qu'il pouvait s'en sortir. Bon, à un moment donné, il en a trop fait, ça a donné le corner sur lequel l'OL a marqué, a réduit le score juste avant la mi-temps. Mais il a été très bon sur ce point-là. Et c'est vrai aussi que défensivement, c'était pas du tout le même Meïté qu'on avait eu dans les autres matchs, et notamment face à Caen, où je me rappelle de plusieurs séquences où il se fait passer devant par Aïd Bennacer, mais d'une manière. Ça reste un bon joueur en face, hein, Aïd Bennacer, mais. Il se fait éliminer parce qu'il ne sait pas comment le cadrer, il ne sait pas comment l'attaquer. Et c'est vrai que sur ce match-là, il a été aussi très bon dans l'impact. Et là où il l'a pêché, à mon sens, dernièrement, puisque peut-être la seule action où il avait vraiment mis de l'impact dernièrement, c'était au moment de faire faute à 3 pour donner le pénalty qui aurait pu permettre à 3 d'ouvrir le score. Donc ouais, très bon match de sa part, son premier très bon match à Bordeaux. Et maintenant, la question le concernant et vu ce qu'on sait un petit peu du joueur sur son approche et sur le plan mental, ça va être est-ce que Poyet va réussir à lui faire enchaîner ce genre de performance. Et ça reste une inconnue aujourd'hui.
Bon, et donc Raphaël, toi, tu as quelque chose qui t'intéresse, c'est la charnière bordelaise.
Oui,
avec notamment un petit jeune qui n'est pas grand, ce qui est quelque chose que tu apprécies.
Oui, bah déjà, je pense que quand tu vois les défenseurs centraux qui sont les références aujourd'hui, quand on parle de Umtiti, de Marquinhos, de Otamendi, c'est pas forcément des géants. C'est des mecs qui plafonnent à 1,82, 1,83, voire 1,84. Donc, ce n'est pas des mecs à 1,90 ou des Allemands des années 80. Lui, parce que j'ai donc Flo maintenant, est très réjoui de ce joueur qui maintenant entré dans le groupe pro, et aussi l'association avec Pablo, qui fait un retour assez...
Tu n'as pas dit le nom du joueur.
Jules Koundé, oui, excuse-moi, c'est tellement une star que je... Voilà, Jules Koundé qui a un jeu de quoi, 18 ans, Flo, 19
19, ouais, il 19. Est de 98.
Voilà, génération Mbappé, donc, et donc avec l'association avec Pablo, que je ne savais même pas encore au club, et qui a l'air de bien fonctionner. Alors, je crois que c'est Bédoué qui a remis Pablo dans le truc,
ouais,
qui l'a sorti du placard.
Pablo a été prêté, en fait... la saison dernière en janvier, il a été prêté au Brésil, et vu que les saisons au Brésil sur l'année civile, en fait, son prêt se termine en décembre, donc il est automatiquement revenu à Bordeaux en janvier.
Écoute, il a l'air de faire de bons matchs depuis, en tout cas.
Ouais, il répond présent là où on le connaissait, c'est-à-dire dans les duels, dans l'engagement. Après, ballon-pied, ça reste plus compliqué, ouais. Pour l'instant en tout cas. Mais c'est vrai que pour nettoyer une surface, etc., il répond assez présent, même si bon, sur le but lyonnais, c'est lui qui lâche le marquage de Marcelo.
Ouais, bon, alors après, c'est votre nouveau Enrique, en gros. C'est,
Ouais, c'est un petit peu ça. Après, il a la vraie question le concernant. Moi, il a prolongé de 2 ans, là. C'est-à-dire, il est rentré face à Nantes, il a fait un bon match, et le lendemain, il prolongeait de 2 ans. Donc,
ouais, c'est très bordelais, ça, quand même.
Ouais, tu comprends pas forcément. Après, il y a peut-être aussi le fait qu'on le prolonge, parce qu'on sait qu'on va le vendre dans 6 mois. C'est possible aussi.
Ouais,
c'est vraiment pas sûr qu'il reste sur le long terme, à Bordeaux.
De toute façon, Koundé est le plus intéressant des deux,
oui.
Déjà parce qu'il s'est relancé, et aussi pour son gabarit. Je pense que quand tu... Bah, Flo, je pense que tu dois aussi parfois entendre ces trucs-là, mais les centres de formation français, quand ils veulent des centraux, c'est toujours les mêmes discussions au départ. Ouais, c'est bien, il peut relancer court, il arrive à sortir balle au pied, il est fort dans le duel, il va vite. Et puis à la fin, il pose la question sur la taille des parents, parce que c'est toujours ce qu'ils veulent savoir. Alors, il fait quelle taille fait son père, il est comment, il est grand. Et si le mec, si tu lui dis, il fait pas un 90, il commence à, tu vois, ça grince des dents et il dit, ah bon, bah écoutez, je vais vous rappeler. Mais il faut un peu, enfin, j'aimerais que les clubs français zappent un peu ça, parce qu'il y a beaucoup d'exemples, et de plus en plus récents. Bah, quand tu penses à Mascherano qui a joué au Barça en faisant 1m75 pendant des années, quand tu penses que le Bayern de Guardiola a fait un match exceptionnel à Turin avec Kimmich et Alaba en défense centrale, enfin, je sais pas, il y a plein d'exemples de à la fois on veut imiter le football protagoniste, le football espagnol, le football allemand, on prend ça comme modèle, on veut les imiter, et puis dès qu'il faut prendre les mêmes joueurs, on commence à, je sais pas, à paniquer.
Et puis
donc, je trouve ça triste.
Le seul défenseur ballon d'or dans l'histoire fait moins d'1m80.
Ouais, et pourtant c'est pas du tout l'image du défenseur gentil et pro et relanceur, tu vois, c'est plutôt un bagarreur qui allait au duel. Non, mais il y a plein d'exemples comme ça. Il me semble que Walter Samuel était pas non plus gigantesque, mais c'était quand même un, enfin, tu vois, il y a, je trouve que c'est dommage de toujours avoir ce référentiel de taille pour des, tu vois, 1m83 Walter Samuel, et pourtant quelle carrière, tu vois. Donc il faudrait qu'on arrête avec ça et qu'on se penche surtout sur le talent et les pieds et la capacité à défendre des joueurs, et pas juste leur taille, parce qu'on finit avec des grandes saucisses qui savent pas relancer un ballon.
Et puis Mathias Zammer aussi, qui était également milieu défensif, mais qui a joué libéro, qui est également ballon d'or, et qui lui faisait 1m80 tout pile.
Ouais, non, mais tu vois, il y en a beaucoup.
C'est du foot, c'est d'il y a déjà 20 ans, donc les tailles étaient un petit peu moins hautes, mais n'empêche qu'il y a plein d'exemples, finalement.
Ah, mais tu vois, Umtiti, il fait un 82, donc on est tous, tout le monde est fan du Barça, tout le monde se dit, ah bravo, le Barça, ça joue, c'est vraiment le modèle de notre génération, et puis on n'ose pas prendre les mêmes risques, donc c'est dommage.
Car après, faut se rappeler aussi que des critiques qu'avait pris Umtiti quand il avait été lancé, ça avait été compliqué ces premières semaines, ces premiers mois, et souvent le seul truc qui revenait à l'époque, c'est ah ouais, mais quand même dans les duels il est pas prêt, ou je sais pas, il souffre, manque de gabarit, etc., alors que tu voyais déjà à l'époque qu'il avait tout le reste. et un jeune défenseur comme ça, à un moment donné, oui, forcément, quand il est jeune, Koundé va forcément, à un moment donné, croiser un attaquant en Ligue 1 qui va le faire souffrir. Parce que, bon, même si là, il a commencé, il n'a pas pris les mecs les plus faciles au duel. Il s'en est pas trop mal sorti, même très bien sorti. Mais forcément, à un moment donné, s'il reste titulaire, qu'il enchaîne les matchs, va forcément y avoir la critique sur un match ou deux où il va plus souffrir qu'un autre. Oh là là, les duels. Mais un jeune défenseur qui souffre dans les duels, c'est, on va dire que ça fait partie du lot. Mais s'il a déjà les intentions, s'il a déjà compris pas mal de choses sur son rôle et sur ce que peut faire ou doit faire même un défenseur moderne, notamment avec la balle, personnellement, moi, je dis, ce défenseur, il faut qu'il reste sur le terrain, quoi. Et les duels, de toute façon, au fur et à mesure, il va se développer aussi physiquement, aussi il va apprendre à répondre à certains attaquants du championnat, il va les découvrir aussi, il va savoir comment les gérer, etc. Et donc il en fera de moins en moins, il va de moins en moins souffrir dans les duels à terme. Et à terme, peut-être que tu peux retrouver au final, le produit fini à suivre pour lui, c'est Umtiti, quoi.
C'est ça, et puis c'est des... De toute façon, c'est des profils destinés, alors peut-être pas Koundé, parce qu'on le connaît encore très peu, mais voilà. C'est toujours des profils destinés à jouer chez les gros, parce que quand t'es pas forcément très grand, un mec comme Umtiti va beaucoup plus vite, et pour défendre des grands espaces, comme le fait le Barça chaque week-end, quand il faut aller défaire des blocs très, très bas et très compacts, t'es obligé, quelque part, à part si t'es piqué et t'es très intelligent dans la gestion de la profondeur, le fait d'être plus rapide, ça t'aide toujours. Et des mecs comme ça, ils ont toujours plus de qualité de vitesse, d'accélération, de courir sur 20 à 30 mètres que des gars comme Stones, qui par exemple est plus grand, mais qui a énormément de mal à coordonner son corps pour aller à la course battre les autres. Tu vois. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait changer dans les mentalités françaises, qui est encore très présente. Je suis en train de regarder Aymeric Laporte pour savoir sa taille, qui lui est très grand par contre. Mais tu vois, c'est d'autres profils que j'aimerais voir, même si Laporte, lui, est un très bon relanceur.
Et puis un dernier petit exemple de taille, Varane fait 20 cm de plus que Medel. Et pourtant, Medel, quand il était en défense centrale, voilà. Je peux dire qu'il allait beaucoup plus facilement au duel et qu'il... Il était pas loin d'en gagner autant.
Réfléchis, alors si on enlève la partie un peu raciste, c'est un peu le même débat qu'on avait sur les quotas il y a quelques années dans le foot français, sur le fait d'avoir des milieux grands, blacks et costauds. La couleur importait pas. Le problème, c'est surtout qu'ils étaient grands et costauds. Et quand tu regardes aujourd'hui, les petits milieux techniques de Ligue 1, c'est des noirs aussi. Quand tu vois Seri, Cyprien, des mecs comme ça, Nampolis Mendy, peu importe la couleur, c'est surtout le profil athlétique qui compte. Et d'éviter les grands à chaque fois. Parce que quand tu regardes les meilleures équipes du foot, elles n'avaient pas toujours des mecs d'1m95, bien au contraire.
Florent, si on repart un tout petit peu sur le match, est-ce que tu as des choses particulières à dire et des projections à faire sur l'avenir de Bordeaux, même si cette saison, ça n'a pas trop été ton fort de prédire,
les
destinées bordelaises.
Non, mais le truc, c'est pour ça que je ne vais pas prendre beaucoup de risques. C'est que sur ce match-là, on a vu une équipe cohérente, qui a bien défendu, qui a défendu en avançant, ce qui n'était pas forcément le cas sur les saisons précédentes, sur les semaines précédentes même, plutôt. Après, il y avait une progression défensive depuis le début du mois de janvier. L'équipe a touché le fond, on va dire, défensivement sur la fin de la phase aller avec les défaites.
Sur le but de Martin Terrier, hein, c'était vraiment là.
Ouais, voilà, le but de Terrier, par exemple. Mais les buts aussi encaissés face à Montpellier. En fait, cette équipe a aussi pas mal souffert de son manque d'équilibre quand elle attaquait sur ces matchs-là, notamment le but de Terrier. C'est au départ de l'action, c'est le 6 qui, à ce moment-là, est le ragueur qui se fait devancer. Et derrière, il n'y a personne qui peut rattraper la situation. Donc, en fait, maintenant, ce qu'on va attendre de cette équipe, c'est de voir ce qu'elle va être capable de proposer dans un match où elle va avoir la balle. Et ça va arriver normalement dès la semaine prochaine face à Strasbourg. Et je crois qu'ils enchaînent avec Amiens derrière. Donc, ils vont avoir deux matchs où ils vont avoir le ballon. Et là, il va falloir proposer autre chose. Et c'est là, peut-être, qu'on va voir aussi si l'équilibre de l'équipe sera meilleur qu'avant. Après, moi, ce que j'ai bien aimé aussi face à Lyon, c'est qu'il y a eu plusieurs séquences où, surtout en début de match, après le fait d'avoir mené au score et aussi le fait de mener, de prendre peut-être plus de pression, d'avoir plus la pression et du coup de vouloir prendre peut-être moins de risques. Mais sur les premières minutes de jeu, il y a eu une équipe qui, dès la récupération de balle, cherchait avant tout à relancer court. C'est-à-dire il y a eu plusieurs séquences où on s'échangeait des ballons dans la surface de réparation quasiment, malgré la pression lyonnaise. Et donc ça, déjà dans les intentions, c'était quand même assez fort, à mon sens, de la part de Poyet, d'avoir réussi à faire passer ce message à une équipe qui reste quand même très fragile avec la série horrible qu'elle vient de faire, même si elle s'est relevée face à Troyes et face à Nantes. Donc ça, c'était intéressant dans les intentions de voir ça dans les premières minutes. Et s'il garde ces mêmes intentions-là de jeu sur la semaine suivante face à Strasbourg, ça permettra peut-être de voir une équipe beaucoup plus créative que ce qu'elle n'était sur la phase aller. Après, il y a la question aussi de la reproduction de la performance chez certains joueurs. Un Meïté qui est à fond contre Lyon, est-ce qu'il sera à fond contre Strasbourg? J'attends vraiment de savoir pour ça. Ah, et il y a la dernière inconnue, c'est qu'il reste que 2 jours de mercato. Et il y a peut-être un renfort offensif qui est attendu. Alors, jusqu'ici, c'était un avant-centre, mais si ça se trouve, ça va peut-être être un profil plus avant-centre, mais aussi ailier gauche, de manière à laisser peut-être la pointe à Laborde qui fait un bon retour et mettre en concurrent à Depréville qui, malgré son but là et face à Nantes, est quand même loin d'être convaincant dans le jeu.
Camano a disparu ou c'est pas l'idée?
Oui, Camano, ça a l'air assez compliqué en ce moment, mais voilà, il va peut-être y avoir un renfort d'ici la fin du mois, mais bon, c'est pas sûr, donc voilà, je vais pas avancer là-dessus.
Et sur Lyon, qu'est-ce que tu peux dire des difficultés lyonnaises, notamment la transition défensive, des choses comme ça? Est-ce qu'on a appris des choses sur les faiblesses lyonnaises ou finalement c'est un peu, pas forcément toujours la même histoire, mais c'est quelque chose qu'on ne savait pas forcément régler? Et ça, si tu rajoutes les difficultés sur attaque placée, qui font que cette équipe-là pourra dans tous les cas pas... Enfin, j'ai vu notamment un article dans un journal local lyonnais, je ne sais pas si c'était le 20 minutes Lyon ou autre, mais qui disait pourquoi pas Lyon champion, qui font que Lyon, si Lyon termine deuxième, ça sera déjà très bien parce que son potentiel n'est pas beaucoup plus haut que ça.
Oui, alors les Lyonnais te répondant que son potentiel est bien plus haut que ça s'ils n'avaient pas Genesio sur le banc, quoi. Mais non, sur ce match-là, c'était très compliqué. Alors déjà sur les transitions défensives, il y a un joueur qui a vécu un gros gros cauchemar sur ce match, c'est Touzard. Qui a été dépassé et qui d'ailleurs sort à la mi-temps, donc c'est quand même assez symptomatique de sa presta. Sur le premier but, il se fait bouffer par Laborde, il perd le duel et derrière ça part très vite. Et il n'y a personne qui est capable de compenser derrière parce que je crois que c'est notamment Ndombele qui trottine assez nonchalamment pendant que Bordeaux finit l'action dans la surface. Donc il y a eu ce souci-là et puis il y a eu aussi une équipe qui a eu aucune imagination avec la balle, quoi. C'est-à-dire que on s'est retrouvé dans une situation où Bordeaux les amenait sur les côtés, les enfermait sur les côtés, et la seule réponse à ça, ça a été de faire décrocher Fekir très bas pour essayer de donner la première impulsion. Mais du coup, il était attendu par Meïté en première lame et Otavio en deuxième, donc il fallait quand même qu'il parte de très loin. Il y a eu aussi le côté gauche qui s'est vraiment fait manger. Si vous regardez la map sur WhoScored, la map des ballons perdus par l'OL sur ce match-là, le côté gauche, c'est assez phénoménal.
Après, c'est aussi parce que tu as un couloir niveau top à Bordeaux avec Sabali Malcolm. C'est quand même, tu vois, les forces de Bordeaux.
Là, c'est défensivement.
Ouais, non, mais.
Après, il y a le ragueur aussi qui a porté en plus son impact dans cette zone. Mais ils ont beaucoup souffert sur ce plan-là. Et surtout, en fait, en début de deuxième mi-temps, tu te dis... on arrive à la mi-temps. Début de deuxième mi-temps, je vois les changements. Alors, je m'attendais à ce que Depailler Traoré rentre. Et Tété aussi, parce que Raphaël avait frôlé l'expulsion en première. Donc, l'entrée de Tété était assez logique. Mais quand tu vois que Depailler Traoré s'échauffe à la mi-temps, tu fais... ça va peut-être être un peu plus compliqué en deuxième mi-temps. Et en fait, tu découvres en plus... Deuxième chose, c'est que le changement, il décide quand même de sortir Touzard, donc il se retrouve avec un milieu Aouar, Ndombele, qui est quand même... en gros, il a mis tout le monde, quoi. Il a mis tous ses talents. T'avais Aouar, Ndombele, Depay Traoré, Fekir Mariano. Individuellement, t'es quand même assez paré, là. Et au final, ils n'ont rien produit de plus qu'en première, quoi. Mais vraiment, vraiment rien. Ils n'ont pas eu d'occasion autre que sur coup de pied arrêté, sur lesquels quand même Costil a été décisif, parce qu'il y a trois, il fait trois très bonnes parades sur la deuxième mi-temps. Donc ça c'est quand même un bon point pour Bordeaux parce que c'était aussi un gros manque sur la phase aller.
C'est un peu le reproche que faisaient les Lyonnais après Lyon-PSG malgré la victoire, c'est qu'à 11 contre 10 ils avaient quasiment rien créé.
Ouais.
Et là c'est à peu près le même problème.
À 11 contre 11 avec tout leur talent sur le terrain, ils ont rien créé de plus. J'ai l'impression que les consignes de Genesio à la mi-temps pour essayer de prendre un bloc bordelais qui était assez compact derrière la ligne médiane avec des milieux, avec une ligne de défense qui jouait finalement assez loin de sa surface de réparation. J'ai l'impression que la consigne c'était de jouer beaucoup plus de ballons dans le dos parce que ça a été multiplié, ils se sont multipliés dans les, on va dire les 10-15 premières minutes de la deuxième mi-temps. Il y en a eu une bonne série, il doit y en avoir 4 ou 5 avec des appels de Depay. Mais au final, Bordeaux a vu le truc venir, la défense a vu le truc venir assez vite. Et ils ont géré ces appels sans grand souci, avec en plus un Costil qui couvrait sa surface. Donc ils n'ont pas été mis en difficulté là-dessus. Et à part ça, Lyon n'a absolument rien proposé de différent en fait, par rapport à la première. Après, c'était évidemment des rushs individuels, vu que si tu ajoutes des individualités, forcément, il y en a peut-être un ou deux qui vont passer à un moment donné.
Surtout, je ne devais pas y être avoré.
Mais voilà, et c'est vrai que c'était collectivement très pauvre. Et c'est vrai qu'au final, le fait de faire la deuxième mi-temps avec Aouar, Ndombele, les 4 de devant, c'est peut-être un aveu implicite de dire bon, on va pas y arriver collectivement, je mets tous mes artistes, entre guillemets, et peut-être qu'il y en a un qui va réussir à renverser le match. Et sur coup de pied arrêté, ils auraient pu, parce qu'ils ont eu les 2-3 occasions qui auraient pu leur permettre de marquer, mais cette fois, ils n'ont pas été efficaces, ce qui avait été le cas face au PSG.
Ouais, ça explique aussi en partie, je pense, le fait que Lyon est toujours le Lyon de Genesio est toujours mieux quand c'est contre plus fort, c'est qu'ils ont, mais ils rencontrent pas ces problèmes finalement. Et le match contre le PSG, il avait été réussi à travers le pressing haut et à travers les phases sans ballon plus que celle avec. Et c'est un peu le cas depuis que Genesio est en place, c'est qu'ils font des matchs toujours corrects quand l'adversaire décide de prendre le ballon, mais que quand il faut défaire un adversaire à la fois bien organisé et avec des joueurs niveau individuel correct, parce que Bordeaux a pas un effectif de 15e ou 16e. Là, ça deviendra un coup plus difficile.
Ouais, mais d'ailleurs, peut-être que leur plus gros match de la saison, au-delà du match face au PSG, leur match le plus convaincant, c'était à Nice, où ils avaient fait exploser une équipe de Nice, justement, en contre-attaque. Quoi.
Après, c'est pas un style mieux ou moins bien qu'un autre, mais ça te limite quand t'es Lyon et que beaucoup d'équipes identifient tes capacités assez rapidement. C'est ça qui pose problème à Lyon. C'est qu'ils n'ont pas d'autres registres, et c'est le cas de beaucoup d'équipes. Hein. Chaque saison, il y en a comme ça, 2-3 par championnat qui n'arrivent pas à sortir de leur registre. Nice, avec Puel, arriver à associer les deux un peu, et c'est ce qui fait le fort des plus grosses équipes. Là, Lyon n'arrive pas du tout à le faire.
Et c'est un petit peu le danger qui guettait l'OM quand Garcia a choisi de passer en 4-2-3 avec Luis Gustavo Anguissa.
C'était le cas un peu lors des premières semaines.
Ouais, et ils ont réussi à en sortir au fil de la saison avec la montée en puissance de Thauvin, le retour peut-être de Germain aussi à un bon niveau, et là dernièrement le retour de Sanson au milieu de terrain.
On a fini pour ce qui est de ces deux équipes.
Oui, à peu près.
Ça marche. On va donc passer en Liga.
À ta séquence, Christophe.
Oui, ma séquence si on veut. Parler du Real qui a gagné 4-1 face à Valence. Florent, on a tous les deux vu le match, mais ce qui est un score plutôt bien payé de mon point de vue, avec deux pénalties en première mi-temps, ensuite Valence revient à 2-1 et le Real remarque deux buts en fin de match pour maquiller le score. Et au-delà de ça, certaines lacunes récurrentes, notamment au niveau des individualités, qui font que même si là il y a grosse victoire et que si c'était, admettons, un match aller-retour de coupe contre Valence, le 4-1 mettrait le Real dans une bonne position. Face à Paris, c'est pas ce match-là qui va forcément rassurer les Madrilènes sur leur capacité à sauver leur saison en allant très loin en Ligue des Champions.
Non, c'est sûr, parce qu'on ne peut pas parler d'un match maîtrisé, malgré ce que peut laisser penser le score. On est sur un match qui a basculé, c'est-à-dire tous les tournants ont basculé en faveur du Real, en fait, quasiment. Et ne serait-ce que le premier pénalty, on est sur un début de match qui est assez équilibré entre les deux équipes. Et le premier pénalty, ça vient d'une très belle action. Le Real, au final, fait deux très belles actions dans le match. Je crois que c'est leur dernier but qui est de cross. Et c'est cette contre-attaque-là qui part très vite. Mais la contre-attaque, ça part d'un corner de Valence qui est sorti et derrière, ça part en contre. Ce n'est pas une situation construite à partir de d'une phase défensive, par exemple, etc. Alors, c'est très bien de profiter de ces situations-là, mais c'est très conjoncturel. Quoi, voilà. Et c'est vrai que ce match-là, en plus, la deuxième action, On n'est même pas, le deuxième penalty, je veux dire, on n'est même pas sur une situation où la défense de Valence est dépassée. C'est un centre qui part de très loin et c'est Montoya qui bouscule, c'est Ronaldo, je crois. La faute sur lui, il me semble.
Je crois que c'est Benzema.
Ah oui, non, t'as raison, ouais. C'est Benzema. Mais voilà, on est sur un centre qui part de très loin. Et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'était un petit peu le projet du Real en début de match. C'était de lancer des dernières passes d'assez loin, de manière à jouer dans le dos de la défense. Et pour essayer de prendre Valence au moment où ils sont, où leurs lignes, tu sais, sont pas resserrées autour de leur surface, quoi. En tout cas, ça se répétait tellement que je pense que c'était l'idée, qui n'était pas forcément bête au demeurant, mais c'est vrai que ça limitait l'expression offensive, alors que tu as un potentiel pour faire beaucoup plus, quand même. Non, voilà. C'est un résultat qui va leur permettre de souffler un petit peu, mais c'est vrai que par rapport au match du PSG, il n'y a pas grand-chose de positif à en tirer. Et tu parlais des individualités, quand tu vois le niveau affiché par certains joueurs, et moi le premier que j'ai en tête, mais ça fait un mois que je l'ai en tête parce que je l'avais vu aussi déjà catastrophique lors du Classico, c'est Casemiro. Quand tu sais l'importance qu'il a eu pendant leurs trois dernières Ligues des Champions, même. Non, leurs deux, je ne sais même plus s'il était à la... Alors, en tout cas, les deux Ligues des Champions. Les deux Ligues des Champions avec Zidane. C'est pas possible d'espérer faire la même chose avec un Casemiro à ce niveau. Et le vrai problème du Real aujourd'hui, c'est qu'ils ont personne pour le mettre en concurrence.
Et sur ce match-là, on a notamment vu, tous les joueurs qui allaient dans sa zone, notamment Guedes, etc., réussissaient à passer à l'épaule ou par le dribble. Il y avait vraiment... Ah ben non, trois Ligues des Champions, je regardais en même temps. Il était effectivement de la première, même si je ne pense pas qu'il ait joué un grand rôle puisqu'il était remplaçant.
Oui, voilà, c'est ça.
Il avait une seule titularisation en championnat.
Ouais, c'était pas la pierre angulaire que c'est devenu sur les deux.
Il n'était pas prêté à Porto à l'époque, où il sortait de son prêt à Porto. Enfin, il y avait une histoire comme ça, non?
Ouais, bah, c'est ce que je pensais en fait dans ma tête, mais en fait, il est prêté à Porto la saison suivante.
D'accord.
Mais c'est vrai que là, au Real, il joue quelques minutes sur toute la saison cumulée. Mais bref, pour en revenir à Casemiro, c'est vrai que le Real a toujours eu besoin, en tout cas quand il jouait de la sorte, d'un très bon milieu défensif pour pouvoir vraiment faire uniquement le sale boulot et ensuite donner le plus rapidement possible le ballon aux joueurs qui sont un peu plus doués techniquement, qui eux vont ensuite se charger de créer les occasions. Bon, en plus, Casemiro, lui, il a un petit bonus, c'est qu'il peut mettre de belles frappes de loin. Mais sinon, globalement, il est juste là pour faire le sale boulot. Et Florent, autant Marcelo, moi, je l'ai trouvé bon sur ce match. Je pense qu'il est vraiment en train de retrouver son niveau. Et Marcelo, en plus, a beaucoup plus prouvé sur la durée que Casemiro que c'était un très grand joueur. Donc, à la limite, tu pouvais te dire qu'effectivement, les 3-4 mois très difficiles de Marcelo, c'était peut-être simplement de la décompression. Peut-être aussi qu'il a géré un petit peu plus sa saison pour monter en puissance alors que tu as une Coupe du Monde à l'été. Autant Casemiro, il n'y a pas non plus un recul incroyable sur ses performances. Et même s'il est quand même stable depuis quasiment 2 ans, on peut se demander est-ce qu'il va réussir à retrouver un bon niveau d'ici Paris, ou alors est-ce que c'est simplement qu'il a une grosse baisse de forme et qu'il va peut-être jamais redevenir le joueur qu'il était l'an dernier. En tout cas, tu as beaucoup moins de garanties que même sur Modric et Kroos à côté, qui ont des hauts et des bas, mais qui dans les gros matchs arrivent à chaque fois à hausser leur niveau.
Oui, c'est vrai que tu parlais de Kroos et Modric. Modric, malgré la cata, je ne l'avais pas trouvé mauvais. C'était un des meilleurs face au Barça, à mon sens. En tout cas, sur la première mi-temps, un des plus en vue, un de ceux qui couraient le plus. Et dans ce Real-là, à l'époque, c'était aussi un vrai problème sur le plan des efforts défensifs. Mais c'est vrai qu'un joueur comme Casemiro, mais surtout que là-haut, il est plus du tout présent là où on l'attend, quoi. Tu parlais des duels. Sur Twitter, tu parlais d'un fameux duel avec Guedes qui le regarde et qui se dit « Ouais, Casemiro, je l'attaque à l'épaule, ouais. Puis je vais passer. » C'est quand même pas la même que le Casemiro de l'année dernière qui était beaucoup plus difficile à attraper en contre-un, qui était quasiment imprenable. Et puis, si t'arrivais à le prendre, il faisait faute. Et au moins, ça coupait l'action, quoi. Et c'est vrai que aujourd'hui, le Real, de toute façon, défensivement, est beaucoup moins... on va dire armé sans lui pour aller loin en Ligue des Champions, parce que j'en parlais tout à l'heure, donc je vais me répéter, mais il a eu une importance capitale dans les deux derniers titres du Real par son abattage et son volume. Et là, si t'as plus cet abattage et plus volume, et que t'as personne pour prendre la suite et compenser ça, Bah, comment tu veux pouvoir résister aux meilleures attaques d'Europe? Et avec Paris, tu vas rencontrer l'une des meilleures attaques d'Europe.
Après, c'est aussi le choix que Zidane a fait cet été de ne pas renforcer l'équipe, de leur faire confiance. Ouais. Alors que quand tu écoutes un mec comme Simeone, il explique que malgré les succès, il faut toujours renouveler une équipe parce que les joueurs se lassent de tes consignes, se lassent de tes plans de jeu, de ton projet de jeu, parce que forcément, le foot a tendance à vite se répéter. Et que lui, il essaye de redonner de la vie à ses groupes en modifiant beaucoup les effectifs. Là, ça n'a pas été du tout le cas à la Real. Et c'est le même problème en moment pointe si Benzema ne se remet pas un peu plus à l'endroit, c'est que tu vas avoir la même problématique. C'était un joueur qui était ultra important, Benzema, dans les 2-3 ligues, 3 ligues des champions du Real maintenant en 4 ans. Parce qu'il arrivait par son jeu de haut but, par sa capacité à tenir le ballon et à trouver ses partenaires autour de lui, à faire avancer le Real, que ce soit sur contre-attaque ou sur attaque placée d'ailleurs. Et là, t'as plus le même joueur en ce moment et t'as pas du tout de solution de remplacement, même pas une demi, parce que sinon, c'est soit faire passer Ronaldo en pointe, soit partir sur du Mayoral. Mais c'est des profils qui n'ont absolument rien à voir.
Et puis là, Raphaël, bon, il y a eu un tout petit peu de recrutement, mais c'était même pas forcément là où t'en avais le plus besoin. C'était plus la succession de Kroos, Modric, quoi, par exemple, qui était envisagée. Ouais, mais t'avais déjà, par exemple, Kovacic qui joue pas tellement, qui peut jouer à ce poste-là. T'as Isco que tu peux faire redescendre un cran plus bas, alors que sur ton numéro 9, donc tu fais revenir Mayoral, qui est un joueur qui a pas encore prouvé grand-chose au niveau, et tu perds Morata, qui était le seul dans son profil d'attaquant. Entre guillemets pivot, même s'il peut faire d'autres choses, mais qui te servait toujours bien en fin de match quand t'as tout le monde devant et que tu balances des centres en espérant que quelqu'un la mette au fond de la tête, quoi.
Ouais, Morata, c'est vraiment la question, parce que d'ici 1-2 ans, tu peux très bien imaginer que Morata aura dépassé Benzema en termes de niveau, surtout parce que Benzema, bah, comme tous les attaquants, va attendre la période compliquée du poste 30 ans. Là, c'est vraiment le transfert. Alors, tu le comprends, parce que Morata aurait sûrement réclamé beaucoup de temps de jeu et ça rapportait de l'argent au Real qui pouvait ensuite qui sans doute vivra un été très animé d'ici 6 mois, mais sur le du moyen terme, le départ de Morata coûte énormément, et un peu comme ce qui se passe en championnat finalement, où Morata avait rapporté énormément de points la saison passée, tout comme un mec comme James Rodriguez, voilà, des mecs comme ça qui malgré leur statut de remplaçant avaient eu des rôles et des statuts hyper importants en deuxième partie de saison.
Et en plus, Florent, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a donc pas mal d'absents du côté de Valence. On a aussi Guedes qui sort sur blessure en cours de match. Il y a Yako arrivé qui est un milieu de terrain qui joue en défense centrale. Il y a Gaïa qui joue ailier gauche, même si lui, le latéral, je trouve, a été plutôt bon un cran plus haut. Mais là où il y a vraiment quelque chose d'intéressant pour Paris, c'est que le milieu à deux, donc c'est un 4-4-2 à plat côté Valence, et le milieu axial, c'était Kondogbia Parejo. Qui sont deux bons joueurs, mais qui ne sont pas a priori des joueurs qui iraient dans un top club, ont réussi à faire mieux que rivaliser avec le milieu du Real. Et tu te dis, alors que Paris a certaines difficultés dans ce secteur de jeu-là au milieu, par rapport à notamment à l'attaque, où là, il n'y a vraiment aucun souci, tu te dis, si Paris compte Dogbia bien, ont réussi à rivaliser, bah, Verratti, Rabiot, etc., peuvent aussi rivaliser. Et à ce moment-là, si tu fais jeu égal là-dessus, et qu'ensuite, ça se joue sur la capacité à faire des différences individuelles devant, bah, Paris doit pouvoir gagner, surtout avec les faiblesses à la fois en défense du Real, mais aussi les faiblesses psychologiques, puisqu'on a vu notamment sur la fin de match contre les Ganes en coupe, où alors que l'an dernier, ça aurait toujours fini par marquer le petit but, là, sur les deux dernières minutes, ça ratait des passes, ça faisait des passes en touche, il y avait des problèmes de compréhension, et les victoires implacables du Real des dernières années, où tu savais que ça allait finir par passer, bah là, en ce moment, elles n'arrivent plus.
Ouais, mais là on est à 2 semaines du match là, ouais, c'est ça je crois, du match aller. Et en fait on entre un peu dans une situation où quand tu analyses posément les dynamiques des deux équipes, alors en effet Paris a quelques soucis notamment dans la composition de son milieu de terrain, mais devant quand tu prends ligne par ligne au final. Le seul argument qui tournerait la double confrontation en faveur du Real, en fait, au moment de pronostiquer, aujourd'hui à l'instant T, c'est ce côté un petit peu irrationnel de l'équipe qui se retrouve en Ligue des Champions et qui retrouve son niveau.
C'est le respect des joueurs qui ont accompli des choses immenses les 4 dernières années même.
C'est ça, c'est ce côté un peu, oui, comme je viens de le dire, un peu irrationnel, qui retrouverait leur niveau en Ligue des Champions.
Quand tu fais le parallèle, c'est un peu le cas de Cleveland en ce moment en NBA. Complètement catastrophique, et la pire défense de NBA, je crois qu'ils sont passés pire derrière Sacramento, qui est quand même une équipe qui fait même pas de la NBA, du basket de NBA en ce moment. Et c'est un peu ça, c'est le respect de LeBron, comme tu peux respecter Modric, Kroos, Ronaldo. C'est difficile d'écarter tout ce qu'ils ont fait d'un revers de la main sur 6 mois de compétition, finalement.
Ouais. Oui,
Et ça nous
mais...
rappelle aussi un petit peu l'avant-confrontation l'année dernière face à Barcelone, où tu te disais, il reste Messi, etc. de l'autre côté, mais Barcelone n'avait sincèrement pas forcément le niveau pour rivaliser avant la double confrontation. Et sur l'aller, on se dit, bah, effectivement, le côté un peu irrationnel de se dire Barcelone reste Barcelone,
ça
bah,
marche
finalement,
pas.
c'est pas vérifié et la meilleure des deux équipes l'emporte. Et finalement, ça se réinverse sur le match retour. Et là, tu vois quand même que malgré tout, tu as le réveil des morts vivants. Alors, c'est un réveil pas très long puisque derrière, Barcelone perd contre la Juve au tour suivant. Mais ça prouve que même sur une confrontation aller-retour, tu peux avoir les deux faces du truc. Tu peux avoir à la fois, effectivement, Paris est meilleur que le Real en ce moment. Donc, Paris va gagner, comme Paris a gagné son coup férié l'an dernier contre Barcelone. Mais tu peux très bien aussi avoir le coup d'une équipe qui panique et l'autre qui est sûre de sa force et qui a tellement vécu ce genre de confrontation un peu au couteau et de match à enjeu que forcément, Ronaldo, Bale, etc., il y a quand même un talent inhérent à ces joueurs-là individuellement qui fait qu'à tout moment, ça peut basculer assez vite.
Avec une grande différence cette saison, c'est que pour Paris, c'est que le match retour sera au Parc. Et,
ouais.
Et ça, ça peut changer pas mal de choses dans l'approche, parce que si on se retrouve avec un match aller où la rationalité fait tourner le match en faveur du PSG à l'heure actuelle, vu la dynamique des deux équipes, ça sera peut-être plus facile pour eux de garder le score à la maison, vu la manière dont ils s'étaient effondrés la saison dernière
Oui,
au Barça.
et puis il n'y a pas Neymar en face cette saison, donc ce sera...
Oui, c'est
Pas
vrai.
Non seulement il n'y a pas Neymar en face, mais maintenant il est chez toi. Donc,
Ouais.
Voilà, donc c'est plus simple.
Attention à Gareth Bale.
Ouais, oui, c'est vrai que je pense que dans le Real actuel, quand tu regardes
C'est Bale le plus dangereux aujourd'hui.
Voilà, la forme des trois de devant, c'est lui qui peut te plus te faire flipper.
Et pour moi, il y a aussi un joker dont on parle très peu, mais c'est Keylor Navas qui, encore sur ce match-là contre Valence, fait quelques gros arrêts. Dont on ne parle pas parmi les tout meilleurs gardiens du monde, mais qui reste quand même, bah, lui aussi, était là des deux dernières Ligues des Champions, il était là dans le but, il ne fait pas trop de vagues, il se trouve assez rarement, et sur, il peut, je ne vais pas dire faire le match de sa vie, mais on l'a vu même en sélection avec le Costa Rica, ouais. C'est là aussi qu'il gagne son transfert en partie vers le Real, et ce n'est pas forcément le joueur le plus médiatisé, mais tu peux très bien passer un match où tu butes constamment sur Keylor Navas, et ensuite, effectivement, de l'autre côté, tu as Bale qui soit va te mettre une frappe en revenant pied gauche, soit mettre une tête parce qu'il a des mollets de fou et qu'il a une détente assez incroyable. Et c'est vrai que ce n'est pas parce que tu domines, ou qu'en tout cas tu as plus d'occasions, que tu vas forcément gagner. Parce qu'effectivement, de l'autre côté, tu as le facteur Areola qui n'est pas forcément une catastrophe, mais sur lequel tu n'as vraiment pas de garantie, quoi. Ça peut très mal se passer. Tu vois, s'il se trouve, mais même sur un truc sans conséquence, tu vois, je repense à Claudio Bravo l'an dernier sur le Manchester United, Manchester City. Il perd totalement ses moyens sur ce match-là. Manchester City gagne quand même, mais tu as l'impression que ça flingue sa saison parce que derrière, il n'a plus jamais confiance. Et Areola, je pense que c'est le genre de joueur qui, s'il rate sa première sortie aérienne, ensuite, tu peux vivre une double confrontation très compliquée parce qu'il peut avoir du mal à se remettre dedans.
Non, mais c'est complètement ça. Après, ce qui est marrant sur Keylor Navas, c'est que le gars a désormais deux Ligue des Champions. Trois, non, deux. Non, deux. Il a pas dit, je crois qu'il n'était pas là 2014 parce qu'il
2014,
il arrive après.
Casillas qui alternait avec.
Avec Claudio Lopez.
Lopez.
Diego Lopez, ouais, je confonds tous les Lopez. Mais ce qui est marrant, c'est que Keylor Navas, à quelques minutes près, il serait à Manchester United ou alors il serait déjà parti à Manchester United et ce serait De Gea qui est un peu le même profil de gardien, pas en termes de gabarit et de qualité athlétique, mais de mec sur qui tu peux buter pendant une heure et demie, comme tu as dit Christophe, et parfois ça relève de l'exploit physique. Et Keylor Navas, c'est un peu ça, et je pense que les deux mêmes gardiens, enfin ces deux gardiens-là, De Gea est plus coté, mais Keylor Navas c'est peut-être pas autant coté que les autres parce qu'il a pas le jeu au pied qui fait passer des gardiens dans une autre dimension comme Ederson, comme Neuer, comme Ter Stegen aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui lui manque pour être aussi reconnu que les autres, surtout qu'il est d'une autre génération que Buffon qui a jamais eu un jeu au pied exceptionnel mais qui est considéré un peu comme de la vieille garde.
En plus, il a percé sur le tard, hein, il doit signer à 29 ans, quelque chose comme ça, alors qu'il était à Levante, enfin, c'était quelqu'un d'un joueur un peu de second rang, en tout cas les joueurs qui brillent dans des petits clubs. Ensuite, bon, il est costaricain, il n'est pas spécialement charismatique, et c'est vrai que son jeu au pied est assez abominable, donc forcément, Il y a 20 ans, il aurait été, je pense, encore plus considéré que maintenant. Ou en plus, quand tu es entouré de stars, c'est vrai qu'on ne voit pas forcément. Et je veux dire, dans un style un peu différent, mais Valdés faisait parfois des matchs énormes parce que 80% de ses face-à-face, il les gagnait, mais il avait un arrêt à faire par match.
Et puis il avait le jeu au pied.
Mais ouais, lui avait le jeu au pied. Mais tu vois, il y avait, dans le même match, tu avais Messi qui mettait un triplé. Donc forcément, tu oubliais qu'à 0-0, oui, Valdés avait gagné un duel à la 25e, quoi.
Ouais. C'est aussi pour ça que De Gea est super coté, je pense que c'est parce qu'il a beaucoup de boulot et qu'en même temps de l'autre côté il n'y a pas forcément une star qui se dégage offensivement et qui prend la lumière comme le prennent les autres que tu as cités.
En effet. Florent, encore quelque chose à rajouter sur le Real ou alors on tourne la page?
On peut tourner la page je pense, de toute façon on va quand même pas mal en parler dans le prochain mois je pense, donc je pense qu'on peut s'arrêter là. Ouais.
C'est vrai que bon, on est forcément obligé d'en parler parce que c'est... limite le dernier gros match en jeu pour les deux équipes. Bon, Paris aura encore les coupes nationales, mais le Real va jouer toute sa saison là-dessus. Et Paris, qui est déjà quasiment champion, va jouer même une partie de son avenir, en tout cas pour certains des joueurs.
Va jouer son staff là-dessus.
Ils vont jouer leur staff ouais, là-dessus.
Et puis il faut parler de Villarreal, Christophe.
Bon. Ouais, on va dire un petit mot de Villarreal, l'adversaire de Lyon. Donc le sous-marin jaune qui a gagné 4-2 face à la Real Sociedad avec un début de match très animé puisque tu avais 3-0 à la 20e, 4-1 à la 34e. Donc ça s'est débloqué assez rapidement. Et une nouvelle fois, une nouvelle preuve que la phrase de Lacombe n'était absolument pas vraie et que Villarreal ne joue absolument pas comme le Barça, puisque 3 des 4 buts, si je me les remémore bien, sont des contre-attaques. Enfin, il y en a une où c'est une relance... c'est une relance un peu ratée de la Real sous le pressing de Villarreal. Mais globalement, la Real avait la balle et Villarreal mettait des contres. Et ce que je trouve intéressant à signaler, alors il y a pas, j'en avais parlé au moment du tirage, il n'y a pas forcément de neuf, c'est toujours une équipe qui joue en 4-4 de losange avec un numéro 6 et un numéro 10, avec Fornals en numéro 10, la petite pépite. Mais... là où tu as une nouveauté, c'est qu'il y a Bakambu qui était le joueur à craindre a priori dans cette équipe-là, signé en Chine. Enfin, je crois que ça a fini par être entériné. Ça galérait un petit peu au niveau des papiers là, parce qu'ils ont leur taxe en Chine qui double le prix des transferts. Mais là, je pense que c'est bon. En tout cas, il n'est plus en ce moment dans l'effectif de Villarreal. Et donc là, ils se cherchent un deuxième attaquant. Et je pense qu'ils l'ont trouvé avec Enes Unal, jeune turc. Il a déjà fait, je crois, 7 clubs alors qu'il n'a que 20 ans. Donc, il a un petit peu bourlingué. Il a appartenu à City, où il n'a jamais joué. Il a été un petit peu prêté à droite, à gauche. Et donc là, il avait été prêté un petit peu à Levante. Il a été rappelé en catastrophe par Villarreal. Joueur assez plutôt bon gabarit, qui protège bien sa balle, mais qui surtout arrive à vraiment avoir une vision du jeu assez étonnante pour un attaquant. Il y a pas mal de fois où je pensais que c'était Fornals qui faisait des passes en profondeur, notamment sur le 3-0 où il donne une balle en profondeur de l'extérieur du pied à Baka qui marque derrière. Et l'association Baka-Unal fonctionne vraiment bien et ça complexifie un petit peu la tâche lyonnaise parce que sans Bakambu, je me disais bon, ils vont avoir du mal à trouver un deuxième attaquant au niveau. Alors il y avait Roger, je ne sais pas, Martinez, ancienne cible de Lyon, qui a signé, donc qui pouvait un petit peu faire son retour dans les mémoires lyonnaises, mais il n'a pas encore eu trop l'occasion de se mettre en valeur. Et là où Nal, ça marche vraiment bien. Alors je ne saurais vraiment pas dire si c'est quelque chose qui va durer ou pas, parce que vu ces statistiques, alors j'ai pas forcément vu à l'œuvre les saisons précédentes, mais en tout cas ça n'avait pas l'air d'être quelqu'un qui surperformait, qui même performait énormément. C'est un peu là comme le jeune qui a été pris par Monaco, qui a marqué en Serie à 16 ans, mais qui dans les sélections de jeunes et dans les catégories de jeunes marquait très peu. Tu peux toujours te dire, est-ce que c'est un épiphénomène ou alors est-ce que justement il se révèle au plus haut niveau au moment où il joue au plus haut niveau parce que c'est quelqu'un qui arrive à chaque fois à se mettre au niveau de la division dans laquelle il évolue. T'en as aussi hein, qui arrive un petit peu à faire des éponges et à s'adapter et qui à chaque fois qu'ils montent de division montent leur niveau de...
Ouais, puis en plus après les buts en jeunes ça veut pas forcément dire grand chose, à part pas toujours parce qu'il y en a certains qui marquent sur leur avance athlétique pendant des années et qui ensuite une fois en pro n'y arrivent plus parce que tout le monde a grandi et ils ont plus cet avantage.
Ouais et puis t'as même des joueurs qui sont tout simplement pas super bons, enfin je me souviens de toute la génération Arsenal avec les Lupoli etc T'avais une équipe de jeunes Arsenal où ils étaient 3 ou 4 à un but par match et au final t'as personne qui a vraiment percé quoi.
Ouais, donc, non, mais ça existe. Ouais.
Mais c'est vrai que là, Ounal, pour le coup, c'est pas un très grand buteur, mais je l'ai aussi vu, j'ai aussi vu en coupe. Et, par contre, c'est quelqu'un qui fait très bien jouer enfin, qui participe bien au jeu. Et Villarreal a confirmé sur ce match-là que c'est l'une des meilleures équipes d'Europe sur les contre-attaques. Et quand je vois le but pris, le premier but pris par Lyon, le but bordelais de Préville, c'est, alors pas la compi conforme, mais c'est typiquement le genre de but que Villarreal marque à tous ses matchs. Et j'ai un peu peur. Alors si Villarreal calme pas le tempo, ça peut partir d'un but à l'autre, mais j'y crois moyennement. Mais je pense que Lyon, même si je vois Lyon quand même légèrement favori de ce match-là, parce qu'en plus je pense que Villarreal a un peu plus gros à jouer, en championnat, parce que tu peux pourquoi pas aller titiller le Real ou l'Atlético ou Valence si tu fais une grosse série pour la Ligue des Champions. Mais faut faire attention quand même, parce que si tu as des problèmes sur la transition défensive et tu joues contre Villarreal avec notamment Castillero qui là joue plus axial mais qui va très très vite et qui est plutôt un ailier que là on recentre, avec en plus Fornals qui met des bons ballons, bah tu peux souffrir si tu te mets en position et si tu perds des ballons au milieu de terrain, parce que derrière ça va pas faire de cadeau.
Non, mais après ce qui est intéressant à Villarreal, c'est qu'ils arrivent toujours à sortir des joueurs. Alors, t'en as parlé, Fornals, Castillero. Alors, ce qui est intéressant cette année, c'est qu'ils ont complètement abandonné le 4-4-2 qui était leur succès depuis des années. Et qu'ils ont mis des joueurs dans des cases où on les aurait pas attendus. Castillero, moi, j'imaginais comme un Carrasco. Et là, il joue au relayeur, il me semble.
Ouais, enfin, il joue relayeur droit. Après, au final, selon les. Enfin, par exemple, si tu regardes, c'est le quatrième but, en fait, il dézone pour quasiment longer la ligne de touche et ensuite se remettre sur son pied gauche et mettre une frappe enroulée classique des liens faux pieds. Mais c'est vrai que sinon, sur les faces sans ballon et quand ça se déploie pas, bah, il se recentre et il joue numéro 8, relayeur droit. Quoi.
Ah, mais ce qui est bien, c'est que alors Marcelino avait installé le 4-4-2 pendant des années et d'ailleurs il l'a remis à Valence et Escriba l'avait gardé pendant l'année où ça a plutôt bien marché. Finalement, il s'est fait virer après en début de saison. Et là, ils ont complètement changé de système. Ils ont gardé un peu les mêmes principes de jeu en une touche de balle et de contre-attaque, qui est travaillé depuis des années. Et je pense que Kaira d'ailleurs était un ancien adjoint qui préparait les séances. Et si tu vois beaucoup de séances sur YouTube de Villarreal qui sont assez novatrices, bah souvent il fait partie des mecs qui les animent. Mais c'est un club qui a réussi à garder son identité malgré des départs assez étranges, parce que Marcelino avait été aussi parti sur une espèce d'embrouille avec la direction sportive alors qu'il avait beaucoup apporté au club, il me semble.
Ouais, et puis il y avait une histoire de, je sais plus, comme quoi il était soupçonné d'avoir laissé gagner, je me demande si c'est pas Malaga ou autre, une équipe, ou Rerun, une équipe où il connaît bien les gens d'en face et où il a joué, enfin il y avait une histoire un petit peu louche, donc ça avait un petit peu tendu la relation avec ses dirigeants, en plus d'avoir une relation un petit peu compliquée avec certains joueurs parce qu'il en demandait, beaucoup et c'était pas le genre à mettre des day-off sans... Ouais. Voilà, juste pour le plaisir, quoi.
Non, mais le package qu'ils ont récupéré de Malaga, Fornal, c'est Caistiero est vraiment à la base de ce renouveau, en plus des mecs qui sortent jeunes comme Rodri. Le milieu, le losange, si les gens veulent voir, parce qu'on en a un peu parlé des milieux en losange, s'ils veulent voir du mouvement et des permutations, le milieu en losange de Villarreal est vraiment intéressant à observer.
Ouais, c'est juste que Bruno Soriano, c'est juste dommage que Bruno ait disparu. Alors je sais, je n'ai toujours pas regardé ce qu'il avait. Je crois qu'il est blessé au genou. Mais en tout cas, il n'a pas joué de la saison. Alors que
ça a permis l'explosion de Rodri aussi. Donc,
oui, c'est vrai que c'est toujours. Ça dépend comment tu le prends, quoi. Mais je pense qu'ils aimeraient bien quand même de temps en temps pouvoir faire tourner un petit peu. Mais c'est vrai que le fait, par exemple, là tu disais de jouer en 4-4 de losange, ça donne des situations un peu bizarres, parce que là par exemple c'est Baka qui sort et c'est Cheryshev qui rentre, alors que lui c'est un pur ailier, et du coup tu te retrouves à un petit peu délocaliser les gens. Ça me fait penser, pareil si tu restes sur un dogmatique, il y a notamment au Rennes de Gourcuff qui se retrouvait à mettre
des Bourigeaud ailier droit.
Bourigeaud ailier droit et des milieux de terrain, j'oublie qui, mais je crois qu'il y avait un... Bon, Unou n'est pas un pur attaquant, il se retrouvait à jouer deuxième attaquant. T'as Gourcuff aussi qui jouait deuxième attaquant. Enfin, des gens qui veulent vraiment pas transiger avec leur système et qui du coup se retrouvent un petit peu à bricoler. Mais des fois, ça donne des belles révélations aussi.
Ouais, puis ça met du monde à l'intérieur du jeu, mais c'est marrant de voir une équipe en losange contre-attaquer, c'est assez rare. Alors Strasbourg le fait un peu de temps en temps,
c'est vrai que c'est un système qu'on associe plus au fait d'avoir le ballon, de faire circuler, de préparer longuement parce que tu arrives à avoir des solutions entre les lignes. Et là, ils l'utilisent de manière complètement différente. Normalement, quand tu contre-attaques, tu passes beaucoup de temps à défendre et défendre sur la largeur avec un losange. C'est hyper fatigant pour tes relayeurs. Et ils y arrivent, donc c'est vraiment un projet curieux et j'espère qu'on arrivera à les voir dans des gros matchs, peut-être plus loin en Ligue Europa, mais ça voudrait dire le départ de Lyon, alors que Lyon a eu un tel parcours en Ligue Europa la saison passée qui a un peu animé notre saison de vue du banc. Donc ce serait dommage aussi de les perdre.
C'est vrai que l'humour francophone serait un peu orphelin d'une
Ah bah,
présence de Lyon en Ligue Europa.
Tes narrations des matchs de Lyon ont eu un franc succès la saison dernière.
Absolument. Alors là, j'ai hâte de voir les duels entre Maxwell Cornet et Daniele Bonera. Toujours vivant et toujours titulaire à Villarreal.
On peut pas sûr qu'ils soient encore vivants après le duel avec Maxwell Cornet.
Bon. Florent, est-ce que tu as un petit bonbon pour nous? Ou alors est-ce que tu.
Non, on a
tu
parlé
de boire de l'eau et de rendre l'antenne.
Ouais, moi j'ai. Ouais, je bois de l'eau d'ailleurs en ce moment. Et donc, pas de bonbons. On a déjà parlé de Koundé tout à l'heure, donc c'est pas la peine d'en rajouter pour l'instant. On va attendre ce qui va se passer cette semaine et le week-end prochain.
Raphaël, est-ce que tu as des choses à nous dire?
Non, 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 même chose. C'était très espagnol et très bien. Et comme Florent, j'espère découvrir d'autres joueurs dans la lignée de Koundé. Voilà, si je devais faire un résumé de ce podcast-là, ce serait voilà, de trouver des profils de joueurs qu'on aimerait voir plus régulièrement sur les terrains, surtout de Ligue 1.
Eh bien, moi, je dirais juste deux mots pour dire que Lille a joué en 3-5-2.
Ah.
Et que ça n'a pas. Ça n'a pas été trop moche, ça n'a pas été incroyable. Alors, Lille gagne demain contre Strasbourg, mais c'est. Je ne vais pas dire que c'est un coup de chance, mais c'est un petit peu bizarre dans le sens où tu marques dans les dernières minutes sur un but qui est pas, enfin, qui est un peu bizarre. Je ne suis pas sûr que ça soit IE qui touche vraiment le ballon et que ça ne soit pas un CSC. Enfin, c'est pas le but du siècle, quoi, très clairement. Et dans le jeu, pendant 60 minutes, 60-70 minutes jusqu'à l'entrée d'El Ghazi, c'était assez pauvre. Alors, c'est assez bizarre de dire que l'entrée d'El Ghazi a fait basculer la rencontre, mais pour le coup, c'est vrai. Et bon, Galtier continue à tenter. Là, on a une première titularisation de Farage, qui est un ailier provocateur polyvalent, qui là joue piston droit dans une défense à 5. Donc, tout dans le milieu à 5, si tu penses 3-5-2 ou 5-3-2, selon comment tu le prends. Et tu as Dabila qui joue, qui fait partie des nombreux joueurs recrutés en CFA. Dans des CFA à Monaco et à Paris, qui vient de Monaco.
Qui n'a rien à voir avec Lucien Dabila.
Non, qui n'a rien à voir non plus avec Nabila, qui est un Ivoirien qui a sa première titularisation, qui a joué axe gauche de la défense avec Balotouré, piston gauche. Donc, tu avais parfois une petite impression de bricolage, avec aussi pour moi Thiago Mendes qui joue beaucoup trop haut. Je ne vois pas trop l'intérêt de le mettre numéro 10. Pour moi, sa qualité de passe n'est pas. Est bonne, mais ce qui fait avant tout sa force, c'est d'être capable de faire le piston et de, selon les phases de jeu et les moments, un coup être 6, un coup être 10, mais être vraiment au cœur des débats. Et pour moi, quand il est 10, il se coupe un petit peu du jeu, il est un petit peu trop. Il intervient un petit peu trop tard dans l'action et parfois les ballons ont du mal à lui parvenir parce que Amadou et Bissouma ne font pas toujours les bonnes passes.
La question là-dessus, là, juste, je te coupe sur Mendes. Peut-être, alors moi aussi je le vois plus bas, mais c'est peut-être tout simplement une question aussi de talent devant. Il le met 10 parce qu'il sait que c'est un bon finisseur et que c'est un mec qui va être capable de marquer sur un tir à 20 mètres ou sur une action tout seul. Il a déjà fait face à Lyon, je crois, qu'il met un super but,
ouais,
ou des frappes à mi-distance. Et je me demande si c'est pas aussi pour ça qu'il choisit de le mettre 10 aujourd'hui. Parce qu'il sait que quoi qu'il arrive, il va peut-être avoir du mal à créer du jeu et avoir de vraies grosses situations. Donc il met un mec qui est capable de marquer sur une demi ou un quart d'occasion, quoi. Je sais pas, hein, c'est une hypothèse.
Je pense qu'il y a de ça. Et je pense qu'aussi, il va un peu le planquer défensivement. Dans le sens où Mendes a été blessé. Ensuite, il a beaucoup joué à son retour. Il est un petit peu cramé physiquement. Et du coup, pour éviter d'avoir trop de zones à couvrir, sachant que. Enfin, à choisir, il y a des joueurs qui, quand ils seront cramés, vont continuer à courir, quitte à se blesser. Lui, il va arrêter de courir, quoi. Il va pas faire l'effort de trop. Il est parfois un peu trop économe, on va dire ça comme ça. Il fait partie des joueurs un peu pointés du doigt pour leur peu d'abattage défensif et leur propension à un petit peu trop gérer leur physique une fois en match et jouer un petit peu trop au talent. Donc, je pense qu'aussi le fait de le mettre 10 un peu plus haut. Il peut participer à la première ligne de pressing plutôt qu'intervenir par la suite. Mais j'ai l'impression que Galtier ne sait pas encore trop quoi en faire. Il sait qu'il est obligé de le mettre parce que c'est ton joueur le plus doué. Mais à un moment, il a même mis ailier gauche. Ça n'avait pas spécialement bien marché. Donc, bon, il y a une recherche de la bonne formule de Christophe Galtier. Mais en tout cas, ce que je trouve intéressant en tant que suiveur du club, c'est que au-delà des discours, il cherche quand même à faire des choses. La veille en conférence de presse, il nous avait dit défensivement, ça marche pas, il n'y a pas assez d'implication. Je réfléchis à changer de système, et puis bim, il va te dégainer une défense à 3 ou à 5. Donc, tu sens que le coach réfléchit, qu'il cherche des solutions et qu'il ne joue pas uniquement sur la corde de l'affect, de la motivation, etc., sur laquelle ouais. Il faut jouer, parce que Lille est l'équipe qui s'en fout le plus, je pense, en Ligue 1, et que la moitié des joueurs, pour le coup, là, il y a vraiment un problème d'investissement une fois en match, mais malgré tout, ils cherchent des réponses tactiques, et c'est aussi ça qui permet à une équipe de résoudre des problèmes, et pas uniquement le fait de vouloir partir à la guerre avant un match.
Très bien.
C'est un bilan complet et vraiment intéressant que nous avons écrit.
C'est un check-up complet. Ouais, le patient peut rentrer.
Le diagnostic est réussi.
Magnifique. Bon, sur cette partie de Dr Maboul, on va pouvoir rendre l'antenne. Merci messieurs pour cet épisode très très long.
Merci à toi.
Je l'espère très intéressant.
Merci à toi d'avoir été si talentueux.
Je ne sais pas. À la semaine prochaine, je ne sais pas trop de quoi on parlera, mais en tout cas on sera là.
C'est au moins de Monaco Lyon, puisque c'est le prochain choc de Ligue 1.
En effet, c'est dimanche.
Ouais, dimanche sans doute. Soir, ouais.
D'accord. Bon, je pense que j'animerai encore puisque je travaille les dimanches soirs.
Il y a un Lille PSG aussi.
Ouais, la logique. Oh. Je couvrirai le match, donc je pourrais vous faire une analyse du 4-0 parisien.
Très bien.
Merci messieurs. Merci Raphaël.
Merci à toi.
Merci Florent, et puis à la prochaine, ciao.
Ciao.
Salut.
Cordialement.